Dimitri Chostakovitch est un compositeur russe de la période soviétique. Il est mort en 1975. Sa musique a été accusée de formalisme par le pouvoir soviétique, mais c'est peut-être ce qui l'a sauvé, car en fait, par sa force et par son dramatisme, elle fait de Chostakovitch une figure majeure de la musique du XXe siècle. Sa cinquième symphonie, la plus connue et la plus jouée, est composée en 1937 dans un contexte particulièrement douloureux et délicat. En effet, en janvier 1936, Staline avait assisté à une représentation d'un des opéras de Chostakovitch, Lady Macbeth, et il l'avait détesté. Un article publié tout de suite après dans la Pravda parle de tintamarre, grincement, glapissement et même de formalisme petit bourgeois. Les représentations ont été aussitôt arrêtées, et puis quelques jours plus tard, Chostakovitch a fait l'objet d'une condamnation officielle au cours d'une réunion de la section de Leningrad de l'Union des compositeurs soviétiques. Il devient même officiellement un ennemi du peuple, accusation qui, dans l'URSS des années 30, précédait bien souvent une déportation. En juin 1937, Chostakovitch est convoqué par le NKVD pour être interrogé, et il ne doit sa survie qu'à l'exécution de l'officier chargé de son dossier. Incroyable. Obligé donc de faire des concessions, Chostakovitch donne à sa musique des accents plus traditionnels. Sa cinquième symphonie, dont la facture classique emprunte un peu à Beethoven ou à Tchaïkovski, lui permet un retour en grâce. Avec cette œuvre, officiellement qualifiée de, c'est le son sous-titre, « Réponse créative d'un artiste soviétique à de justes critiques », le musicien a simplifié son style, sans pour autant, on va le voir, réprimer sa personnalité. Elle est en quatre mouvements. Un premier avec un thème récurrent, un scherzo humoristique, un adagio mélancolique et un final en apothéose. La symphonie se signale par une ambiguïté sur la nature de l'héroïsme et du triomphe. Pour faire exaltant, comme on exige de lui, Chostakovitch met une emphase péremptoire mais qui sonne creux. La surcharge est suffisamment bien dosée pour éviter la caricature et en même temps rester crédible par rapport aux instances soviétiques. Mais quand on écoute bien et de près, il est cependant permis d'avoir des doutes. On entend des incises nostalgiques ou même désespérées qui vont à contresens de l'ensemble. Les passages optimistes, entre guillemets, en revanche, sont plutôt lourds et laborieux. L'équivoque semble s'estomper dans le mouvement final. Là, après un appel héroïque d'un genre colossal et entraînant, vient un moment de recueillement, puis enfin une coda totalement surajoutée qui martèle pompeusement une montée en puissance soutenue par des timbales wagnériennes. Cette fin grandiloquente, créée par son accumulation d'effets, par la tension sous-jacente des violons, un malaise qui n'a rien d'héroïque. À la différence de la plupart des critiques staliniens, comblés par la magistrale soumission de Chostakovitch aux canons héroïques massifs, quelques auditeurs, plus attentifs ou tout simplement sensibles, avaient été frappés par le sentiment d'angoisse et l'atmosphère de châtiment qui se dégageait de ce final. C'est le chef d'orchestre Kurt Sanderling qu'on va écouter maintenant, car il était un témoin direct de cette époque. Lors de la création de cette symphonie, raconte Sanderling, ouvrez les guillemets, dès le premier mouvement, nous nous jetions des regards significatifs. Serions-nous arrêtés après l'audition, rien que pour avoir écouté cette œuvre ? La fin de la symphonie, ajoute Sanderling, était destinée à effacer les soupçons en provoquant un malentendu. Cette fin grandiloquente peut être entendue, selon Sanderling, comme des acclamations à un congrès du parti, bien qu'il s'agisse non seulement d'une exultation extorquée, mais au fond, de l'angoisse de quelqu'un qui se trouve devant un mur infranchissable. Sanderling appuie son propos sur quelques indications techniques. Certaines maladresses dans l'orchestration sont volontaires, dit-il, notamment dans le scherzo et le final. Elles témoignent, pour toute oreille fine, des arrière-pensées du compositeur. Nous écoutons donc cette symphonie ambiguë, dirigée ici en 1999 par Kurt Sanderling, à la tête du Royal Concertgebouw Orchestra d'Amsterdam.
Thank you.